Chaque jour, des hommes et des femmes contribuent au bien de leur communauté par la promotion des valeurs. Ces hommes et ces femmes transforment et impactent positivement la société. Ces entrepreneurs sociaux, ces modèles de réussite méritent tous les honneurs dans La Paix en Chanson. La Paix en Chanson, conception, présentation, Ghislain Koulibaly. La paix en chanson.
Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de La paix en chanson. Celle que nous recevons aujourd'hui est une consoeur. Elle est journaliste indépendante et travaille donc pour plusieurs grands médias français. Elle est aussi diplômée en sciences politiques, une discipline qu'elle affectionne tout particulièrement, et elle nous dira pourquoi. Et toujours est-il que sa passion pour le journalisme s'est forgée à travers son premier stage qu'elle obtient à TF1, la première et plus ancienne chaîne de télévision généraliste nationale française. Et cette opportunité est également pour elle un grand challenge, un défi à relever. Entre boulot et famille, sa vie est aussi secouée, surtout par le décès de sa mère, et elle se voit obligée d'assurer l'éducation de ses petites sœurs encore adolescentes. Gina Loukiessa est notre invitée aujourd'hui dans La Paix en Chanson. Bonjour Gina.
Bonjour Ghislain, merci beaucoup pour l'accueil.
Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir, Gina, ici à Radio de la Paix pour cette émission La Paix en Chanson. Et vous avez un parcours édifiant, rythmé par le travail, l'attachement à la famille et puis également à la solidarité humaine. Mmh. Voilà, et des valeurs que nous allons scruter ensemble tout au long de cette émission. Et cela va se faire en partie à travers des chansons que vous aimez écouter, des chansons qui font partie de votre quotidien. Et dans votre playlist, on trouve du jazz, particulièrement du Miles Davis. Et on va écouter un bout.
La paix en chanson.
Blue in Green, extrait de l'album King of Blue, sorti en 1959, et c'est Miles Davis. Alors, qu'est-ce qui vous rapproche de ce titre ?
Blue in Green, c'est un titre que j'ai découvert tard. Aux États-Unis, j'avais à l'époque un petit ami américain. On allait souvent dans des clubs de jazz et ça, c'était un titre qui était souvent interprété le soir et des fois quand on était en voiture, il la mettait et parfois également je retrouvais ce titre dans les clubs et je sais pas, c'est un titre qui m'accompagne depuis une vingtaine d'années maintenant, et je l'écoute quand j'ai envie d'être apaisée, quand j'ai envie d'être au calme, quand j'ai envie de me retrouver seule en fait.
Qu'est-ce qui vous touche particulièrement à l'écoute de cette chanson ? Ce sont les instruments qui vous bercent ?
Ouais. En fait, je la trouve triste, et en même temps, je la trouve apaisante. Et j'ai jamais vraiment analysé à quel moment j'écoutais vraiment cette musique. Mais oui, voilà, moi, elle m'apaise plus qu'elle m'attriste, je dirais, plutôt. Ouais.
Voilà. Alors, c'est justement important, cette question d'apaisement. Et ça permet de bien démarrer cette émission et cet échange avec Gina Loukiessa que nous recevons aujourd'hui dans ce numéro de La Paix en Chanson. Et du Congo à la France, que dire de votre enfance ?
Alors, moi je suis née à Kinshasa, au début des années 80. Ma mère est congolaise, mon père est angolais. Et ils se sont rencontrés à Kinshasa parce que mon père avait quitté avec sa famille l'Angola. Il y avait la guerre, en fait, à cette époque-là. Du coup, mon père a quitté l'Angola. Il a rencontré ma mère, qui était déjà très belle à l'époque. Et ils sont tombés amoureux. Et voilà, ils m'ont conçu. Je suis l'aînée de la famille. Ils ont conçu également, à la même époque, ma petite sœur. Et puis, quand j'avais 3 ans, mon père a eu l'opportunité de voyager, de quitter le Congo pour la France. Il avait un ami qui avait des garages en France et donc il avait besoin de main-d'œuvre. Et mon père donc a été engagé en tant que garagiste. Hein, et puis, il avait comme volonté de faire venir ses enfants et sa femme dès qu'il en avait les moyens. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, à 5 ans, j'ai quitté Kinshasa avec ma sœur, ma mère. Et on est arrivé à Levallois, dans le 92. En fait, c'est une petite banlieue parisienne. On arrive à Levallois et puis voilà, j'ai appris à découvrir mon père parce que je savais que j'avais un papa qui était en France. Mais à l'époque, il n'y avait pas les téléphones hein, comme aujourd'hui. J'avais juste des photos, mais voilà, quand j'ai vu mon papa, bah, on a réappris à se connaître. Un peu comme des animaux qui se touchent comme ça. On a appris à se connaître. Et voilà, mon père était quelqu'un de très mutique. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne punissait pas beaucoup non plus. C'était ma maman qui tenait la maison. C'était elle qui corrigeait nos devoirs. C'était elle qui punissait. Mon père, c'était plus pour des bons moments, en fait. C'était pas un papa colérique. Pas du tout, non. Donc voilà, j'ai grandi en France. Et j'ai fait toute ma scolarité en France. Voilà.
Et vos premiers pas à l'école, est-ce que vous avez en mémoire cette ambiance-là de la maison, sur le chemin de l'école, à l'école, les rencontres?
Alors, l'école à Kinshasa ou l'école
L'école, déjà à Kinshasa.
À Kinshasa, j'ai fait la maternelle. À Kinshasa, j'ai fait la maternelle. Donc, j'ai des souvenirs de l'uniforme, que je portais l'uniforme. Ma mère, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ma mère, elle avait fait des études de médecine. Et donc, moi, j'ai été élevée par ma grand-mère, qui s'occupait de nous, en fait, quand ma mère était à l'école, pendant les études. Et donc, pour moi, pendant très longtemps, ma maman, c'était ma grand-mère, en fait. Même si j'avais une maman, mais pour moi, comme c'était elle qui était tout le temps là, pour moi, ma grand-mère, c'était ma maman, en fait. Et donc, j'ai fait mes études à Kinshasa. C'est ma grand-mère qui a payé les études, parce que ma grand-mère, avait à l'époque beaucoup de moyens financiers. Elle faisait du commerce entre Kinshasa et... entre les deux capitales, c'est-à-dire Kinshasa et Brazzaville, qui sont juste séparées par un fleuve. Et ma grand-mère vendait des produits qu'elle achetait en Europe, elle les revendait ensuite à Brazzaville. Donc on avait quand même pas mal d'argent, et elle ne voulait pas me mettre dans une école privée. Elle voulait me mettre dans une école publique. Du coup, j'ai été à l'école publique pendant un an, et elle a décidé de changer, parce qu'à l'école publique, il y a une petite anecdote... Ce qui a décidé ma grand-mère de me changer d'école, c'est qu'à l'école publique, à l'époque, on voulait que les enfants aient les cheveux courts, très courts. Et moi, petite, j'avais les cheveux très longs. Et le directeur voulait me raser la tête. Ma grand-mère s'est opposée, du coup, elle m'a changé d'école. Donc, je suis entrée dans une autre école, mais j'avais un peu perdu mes repères parce que, à l'école où j'étais, j'avais tous mes amis. Donc là, j'ai débarqué dans une autre école où je connaissais personne. J'étais un peu malheureuse. Et ça n'a pas duré très longtemps. Après, on est arrivé en France. Et en France, j'ai appris à redécouvrir des gens que je ne connaissais pas. Mais sauf que là, en Afrique, j'avais affaire à des gens qui me ressemblaient. Là, j'arrive en France et la plupart des gens sont quand même blancs de peau. Ils ne me ressemblent pas du tout. Mais à cette époque-là, je réalise pas encore que je suis une femme, que je suis une petite fille noire. Franchement, je réalise pas encore. J'ai pas encore cette conscience-là. Non. La conscience de la peau, je l'ai pas encore. En revanche, la conscience de que je suis différente, ça oui, je l'ai parce que je parle français, mais je parle pas français comme eux en fait. Je fais des fautes d'orthographe, j'ai un accent et on se moque de moi. Mais très vite, j'arrive à me faire des amis. Parce que je pense que j'ai une facilité à me faire des amis. Donc très vite, j'ai des amis. Et très vite, je me sens moins seule. Et l'école devient un refuge parce que j'adorais l'école. J'étais assez bonne à l'école. Ce que j'aimais, c'est que j'apprenais plein de choses. Donc pour moi, c'était là qu'il fallait être, en fait. Et pas ailleurs. C'était là qu'il fallait être.
C'était des grands moments, des moments où beaucoup de valeurs sont partagées, des découvertes, de la curiosité aussi.
Oui, mais au-delà de ça, moi j'étais juste heureuse d'être en France, j'étais heureuse d'être en France, j'étais heureuse d'être en bonne santé, j'étais heureuse d'avoir plein d'amis, j'étais une enfant quoi,
Ouais. Et on va dire le soutien des parents, justement, dans ce choix-là, à l'école, après, en grandissant, il y a des choix qu'on veut faire, hein, par rapport à la carrière qu'on aimerait choisir, embrasser. Mm-hmm. Est-ce que les parents ont joué un rôle ici, à ce niveau-là
ou, dans le choix des études ?
Dans le choix des études.
Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, je travaillais bien à l'école, j'ai jamais eu de problème à l'école. Et en parallèle aux études de la primaire au lycée, et même après, je faisais du théâtre le mercredi. Et donc moi, je m'imaginais plus tard, faire du cinéma ou du théâtre. Et en fait, j'ai vraiment pris conscience de ce que je voulais vraiment faire. En fait, c'était vraiment c'est mitigé la question que tu me poses. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi tranché. C'est-à-dire que moi, j'avais une volonté enfouie en moi. C'est-à-dire que je voulais être plus tard comédienne. Mais en même temps, en grandissant... Mes parents voulaient pas trop qu'on regarde la télé. On pouvait regarder la télé le mercredi après-midi. Il y avait Club Dorothée, pour ceux qui connaissent. Et il y avait aussi une émission qui s'appelait 7 sur 7, qui était présentée par Anne Sinclair, une grande journaliste française. Et moi, je m'imaginais bien, comme Anne Sinclair, recevoir plein d'invités différents, parler de plein de choses. Et en même temps, j'ai envie de faire du théâtre. Et puis plus tard, quand il a fallu choisir, eh bien naturellement, mes professeurs m'ont dit que je pouvais faire un peu ce que je voulais. Ma mère m'a dit non, mais Gina. Et moi j'ai dit non, mais maman, moi j'ai envie de faire du théâtre. Elle m'a dit non, mais Gina, mais tu vas pas faire du théâtre. T'as des capacités, tu vas pas faire du théâtre. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit oui parce qu'en fait ma mère. C'est aussi un modèle, c'est-à-dire qu'elle arrive en France, elle était femme de ménage, femme de chambre dans les hôtels. Ensuite, elle est devenue gouvernante d'hôtel, gouvernante générale. Et pour moi, c'était quand même une réussite, en fait. C'est-à-dire qu'à travers ma mère, je voyais qu'en fait, même en arrivant de très bas, on pouvait réussir. Et je me suis dit, moi, j'ai la chance d'avoir grandi en France, d'avoir fait des études. Et j'ai la chance de ne pas être trop bête. Donc effectivement, elle a raison, je vais m'engager vers peut-être un métier plus noble. Mmh. Et donc, après le lycée, j'ai intégré une première année de lettres, parce que mes professeurs m'ont conseillé d'aller vers cette voie-là. Et j'ai intégré la Sorbonne en première année, et ensuite j'ai fait une école de journalisme, parce qu'en fait, les études de lettres ne m'intéressaient pas, ça m'ennuyait plus qu'autre chose. J'ai fait une école de journalisme. Et après 3 ans, après avoir eu mon diplôme, je suis partie vivre aux États-Unis pendant 1 an.
Bienvenue si vous venez de nous prendre en marche. Vous suivez La Paix en Chanson et aujourd'hui nous recevons Gina Loukiessa. Elle est notre invitée, elle est journaliste indépendante. Elle travaille pour plusieurs chaînes françaises, hein, Canal+, TF1, M6, j'en oublie même, Gina.
TV5 Monde aussi.
TV5 Monde, bien évidemment. Et donc, Gina, naturellement, a fait des études en journalisme. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à étudier ce métier ?
Plusieurs choses. Ce qui me donne envie de, c'est ça, ce qui me donne envie de faire ce métier, plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y avait les BD que je lisais quand j'étais plus jeune, Tintin et tout ça. J'aimais bien, c'est un oncle qui me les rapportait. J'aimais bien m'imaginer sillonner le monde, etc. Après, il y a eu 7 sur 7, une émission que je regardais le dimanche avec ma mère, où il y avait une journaliste qui recevait... des célébrités, des politiciens, des cadres financiers. Et je me disais, mais c'est incroyable ce qu'elle fait. C'est incroyable qu'elle puisse interroger tous ces gens. Et pareil, je pense que ça a nourri mon imaginaire en me disant, ce serait bien si tu pouvais le faire toi aussi plus tard. Et puis, plus tard, pour moi, c'était une certitude que c'était ce métier que je voulais faire.
Oui. Ouais. Et vous décidez d'apprendre ? Bien avant de vous lancer comme ça à la conquête des chaînes de télé.
Bien évidemment, où j'ai fait des études de journalisme.
Oui.
Après, j'ai fait un master de sciences politiques. Et toutes ces études, en fait, m'ont nourri. Bon, l'école de journalisme, pas trop, mais la science politique, énormément, parce que c'est vraiment des études qui m'ont passionnée. On apprenait la géopolitique, on apprenait les polarités dans le monde, on apprenait mais tellement de choses. Enfin, pour moi, c'était extraordinaire de toute cette culture, en fait, que je m'imprégnais au fil des mois et ensuite au fil des années. Mes études ont duré 2 ans, mais ça a vraiment été les meilleures études de ma vie. Vraiment, vraiment.
Les études en sciences politiques.
Oui, vraiment.
Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous servez justement de ce que vous avez appris en sciences politiques
pour bien
construire vos scripts, vos questionnaires, quand vous avez des interviews, des reportages?
En fait, ça s'articule pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que mes études de sciences politiques me permettent de pas être perdu, en fait, okay, quand je vais quelque part. C'est-à-dire que quand je vais en Afrique, naturellement, je me renseigne sur l'ambiance du pays. Naturellement, j'essaie de savoir, c'est quoi la monnaie, et c'est qui le président, et c'est quoi la religion dominante. Voilà, ça c'est des
réflexes.
Choses. Voilà, ça c'est vraiment des réflexes que j'ai naturellement, mais ça c'est dû à mes études, oui.
En sciences politiques.
Oui.
Ouais. Et puis votre premier stage en tant que journaliste, c'est TF1, mm-hmm, qui vous accueille, mm-hmm, cette grande chaîne généraliste française. Mm-hmm. Alors, ça vous fait quoi d'entrer déjà dans cette chaîne-là, toute
excitée.
Jeune.
Ouais. Pour moi, c'est vous savez, pour les parents d'immigrés, parce que moi je viens, mes parents étaient immigrés. Pour les parents d'immigrés, intégrer une chaîne comme TF1 déjà, même si c'était pas mon premier emploi, je rentrais chez TF1 en tant que stagiaire, donc ça, mm-hmm, en vérité, avec le recul, ça veut rien dire. Mais pour moi, c'était déjà une réussite en quelque sorte. Et j'ai toujours eu la volonté de rendre fiers mes parents. Et rien que ça, pour moi, c'était beaucoup leur donner. Comme je disais tout à l'heure, mes parents, ils sont partis de rien, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, même si ma mère vient d'une famille assez aisée. Mais en arrivant en France, en fait, on s'est retrouvés avec rien, quoi. Donc, pour moi, c'était aussi rendre fiers mes parents, leur dire, voilà, votre première fille, elle rentre chez TF1. Et du coup, quand je suis arrivée chez TF1, pour moi, il fallait que je réussisse. C'est-à-dire que mon premier stage, il fallait qu'il soit concluant. Je ne pouvais pas partir sans contrat, ce n'était pas possible. Donc, je me suis donnée à fond. Et mon rédacteur en chef m'a fait confiance. Je crois qu'il a dû voir en moi cette rage quand même que j'avais. Et il m'a confié mes premiers sujets. Il m'a envoyé sur le terrain, alors qu'avant, on n'envoyait pas les gens comme ça sur le terrain. On attendait un petit peu. Et ensuite, on les envoyait. Moi, il m'a envoyé à peine une semaine quand je suis arrivée. Il m'a envoyé sur le terrain et je me suis défoncée sur le terrain. J'étais avec quelqu'un qui était quand même assez... je suis partie avec un caméraman qui était, lui, assez expérimenté. Aujourd'hui, on est encore amis, mais c'est vrai que quand je suis arrivée, il m'a montré ce qu'il fallait faire. J'ai appliqué exactement ce qu'il me demandait de faire. J'avais bien préparé mon interview. Donc, pour moi, tout était... j'avais pas le droit à l'erreur, en fait.
Et puis, vous avancez petit à petit dans ce métier. Mm-hmm. Après ce stage-là, il y a eu des contrats.
Après, j'ai eu des contrats, oui, ouais. Oui. Déjà à TF1, ensuite à France 24, ensuite chez M6. Mmh. Et après, je suis restée assez longtemps chez M6 avant de devenir indépendante.
Et voilà, vous parlez là de ce volet-là, de cette indépendance que vous prenez dans ce métier de journalisme. Et vous êtes aujourd'hui journaliste indépendante. Mmh. Et pourquoi vouloir partir du confort salarial? Qu'est-ce qui vous amène à faire ce choix?
Ce qui m'amène à faire ce choix, c'est que j'avais envie j'avais envie d'autre chose pour moi. J'avais envie de faire d'autres reportages, j'ai envie de découvrir d'autres milieux. Au début, quand j'ai commencé à faire ce métier, je faisais que des petits sujets de 6, d'abord de 3, 6, 9, 9 minutes. Et moi, en fait, j'ai envie de faire des documentaires, j'ai envie de faire des sujets plus longs, j'ai envie de voyager, j'ai envie de concrétiser ce que j'avais... comme volonté quand j'étais petite, c'est-à-dire que Tintin, il voyageait, il n'était pas dans sa rédaction du matin jusqu'au soir. Hein. Et donc, j'avais envie de ça, en fait. J'avais envie de m'essayer à d'autres formats. J'avais envie de... Oui, j'avais envie de... J'ai envie de changement, en fait. Je ne voulais pas faire tout le temps les mêmes sujets. La paix en chanson,
la paix en chanson, chanson. La paix en chanson, la paix.